l'édition de la mi-journée sur Colline, midi 2. On passe à toute l'info près de chez nous ce lundi, demain en compagnie de Boris Blay. Bonjour Boris.
Bonjour David, bonjour à tous. Mieux cerner les besoins des familles monoparentales, c'est l'objectif d'une enquête qui se termine ce soir sur les Deux-Sèvres à l'initiative de l'UDAF. Moléon coupe les lumières le soir à partir de 1h du mat, 22h à certains endroits, une manière de réduire la consommation électrique de l'éclairage public. Plus de liaisons douces pour les piétons et les vélos à Thouars, une conférence débat est prévue mercredi soir pour alimenter la réflexion. Et puis dans la page de sport, nous reviendrons sur tous les résultats du week-end, la défaite des Chamois en Ligue 2, la défaite des Bressuirais en National. On parlera aussi du top 10-12 en tennis et de l'élimination du Niort Rugby Club. Un 1er mai marqué par des manifestations partout en France. Environ 250 personnes étaient rassemblées à Niort hier matin à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et de l'association Eco-Avenir. La manifestation avait lieu dans le quartier du Clou Boucher, le seul rassemblement organisé dans les Deux-Sèvres à l'occasion de la fête internationale du travail. Des bannières de la France Insoumise, du PCF, de Génération, de l'Union Populaire flottaient également au-dessus des participants. Le PS avait aussi appelé à se joindre au mouvement. Ils ont lâché les jumelles pour lui porter secours. Les gendarmes de la brigade de Chandonnier ont apporté les premiers secours à un motard victime d'une chute à quelques mètres de l'endroit où il contrôlait la vitesse. Ça s'est passé hier après-midi à Ardin. Une opération de contrôle sur la départementale 744 entre Coulonges-sur-Lautise et Villiers-en-Plaine. Peu après 16 heures, le pilote d'une moto qui passait à leur niveau a perdu le contrôle, finissant sa course dans la haie à quelques mètres des militaires. Le motard, un Vendéen de 52 ans, a été transporté à l'hôpital de Niort pour des examens de contrôle. La vitesse n'était pas en cause dans cette sortie de route. 18 sapeurs-pompiers, 9 véhicules mobilisés. Les secours se sont organisés hier après-midi dans une ferme de Saint-Germain-de-Longchaume pour tenter de sauver une dizaine de cochons tombés dans une fosse à lisier. L'accident s'est produit dans un bâtiment d'élevage abritant 150 porcs. Des spécialistes en risque chimique, en reconnaissance et intervention en milieu périlleux et en secours animalier ont été dépêchés sur place. L'enquête sur les besoins des familles monoparentales résidant en Deux-Sèvres se termine aujourd'hui. Lancée au début de ce mois d'avril par l'Union départementale des associations familiales. Cette étude anonyme est en ligne encore aujourd'hui et seulement aujourd'hui. Nathalie Lacroix-Philippe, la directrice du pôle enfance-famille-parentalité, nous rappelle que l'objectif est de mieux cerner les besoins des parents.
La monoparentalité engendre des conséquences à la fois sur le budget, à la fois sur les loisirs, sur la charge mentale. Aujourd'hui, on peut aussi parler de burn-out parental quand on est seul avec ses enfants. Et donc, tous ces aspects-là, la vie quotidienne de la monoparentalité, sont interrogés dans cette enquête. L'objectif étant de pouvoir faire une analyse ensuite et de pouvoir porter peut-être ou proposer des dispositifs en cohérence avec les besoins. Aujourd'hui, l'isolement crée l'isolement, c'est ce qu'on constate. Hein. C'est qu'aujourd'hui, dans le département des Deux-Sèvres, il n'y a pas forcément d'association de parents solo. Il n'y a pas de rassemblement d'associations de familles monoparentales. Et c'est vraiment aussi les révéler qu'elles peuvent, elles aussi, peut-être créer une association, se retrouver dans des groupes de parole pour pouvoir partager et se soutenir dans leur situation, qui peut être un choix, qui peut être un accident de la vie, qui peut être plein de raisons, mais en tout cas pouvoir sortir de l'isolement dans lequel elles sont de temps en temps.
Des propos recueillis par D4B. Cette enquête sur les besoins des familles monoparentales est en ligne jusqu'à ce soir sur le www.udaf79.fr. Il faut environ une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Moléon poursuit le travail engagé pour la réduction de la pollution lumineuse et la maîtrise de sa consommation d'énergie. Après le remplacement des vieux éclairages par des lampes LED, l'ensemble des ajustements réalisés a permis de diviser par deux les consommations d'électricité de l'éclairage public de 2009 à 2021. La forte augmentation des tarifs de l'électricité pèse bien entendu sur les finances de la collectivité qui compte 1500 points lumineux et la facture de l'éclairage public de 2021 s'élève à 58 000 euros et pourrait doubler en 2022 si rien n'était fait. Ainsi, à partir de cette semaine, l'éclairage permanent fonctionnant jusqu'ici toute la nuit sera coupé de 1h à 5h du matin et l'éclairage temporaire sera éteint à 22h au lieu de 22h30. Écoutez Pierre-Yves Marolo, le maire de Moléon.
La nuit, souvent, des lumières restent allumées, c'est pas forcément forcément dans l'air du temps. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les collectivités, on est confrontés à une augmentation très très forte des tarifs d'électricité, tout comme d'ailleurs les entreprises. C'est quelque chose qui va se poursuivre. On y travaille. Alors évidemment, tous les points ne seront pas éteints, parce que pour des questions de sécurité, parfois il faut laisser, je pense au rond-point, laisser les choses allumées. Mais oui, un gros travail encore va être fait pour aller dans le sens de la réduction du nombre de points lumineux.
D'autant plus que la ville vient d'obtenir une deuxième étoile au titre des villes et villages étoilés.
Oui, c'est vrai qu'on vient d'obtenir une deuxième étoile qui montre bien que le jury est sensible à tout le travail qui est fait par nos équipes, par la commission aussi d'élus qui travaillent sur ce sujet, pour aller dans ce sens aujourd'hui inexorable par rapport au coût dont je vous disais, mais aussi par rapport à notre environnement.
Pierre-Yves Marolleau, le maire de Mauléon, les nouveaux horaires de fonctionnement de l'éclairage public sur le territoire mauléonais entrent en application cette semaine. À Thouars, la commémoration de la déportation des familles juives toarsaises initiée par la Société d'histoire, d'archéologie et des arts du pays toarsais a rencontré un vrai succès. 140 personnes étaient présentes au conservatoire Tindot pour la conférence de vendredi. Une centaine lors de l'inauguration de la stèle près de l'hôtel de ville et une cinquantaine au cinéma Le Kiosque pour la projection du film. Ce projet associatif a pu se concrétiser grâce à l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nous l'avions annoncé dans nos éditions de la semaine dernière sur Colline. On reste à Thouars pour son dernier rendez-vous d'avant les vacances. L'université citoyenne du Thouarsais propose une conférence débat sur les mobilités douces, piétons et vélos. Ce débat qui aura lieu ce mercredi 4 mai à permettra d'examiner les multiples facettes de cette question. Un débat d'autant plus utile que la collectivité s'engage dans un plan vélo avec deux axes entre l'hippodrome et le centre-ville et un embranchement en direction de la piscine. Raison de plus pour que les Thouarsais s'emparent du sujet, comme l'explique Francis Sabourin, secrétaire de l'Université citoyenne, au micro-colline de Dominique Hérault.
Il y aura deux témoignages de personnes malvoyantes qui se déplacent à pied, là avec une canne blanche dans Thouars. Et pour la partie cycliste, il y aura aussi deux témoignages de personnes qui se déplacent. On parle bien ici de vélo pour se déplacer dans Thouars et non pas de vélo loisirs français, etc. Je fais beaucoup de vélo de route, donc je suis un convaincu. Alors, c'est plutôt les gens qui semblent avoir des difficultés et qu'il faut convaincre qu'ils ne puissent pas se retrancher derrière des problèmes de sécurité pour ne pas se déplacer en vélo dans Thouars.
Sans attendre plusieurs mois encore la mise en service de ces deux axes majeurs, il serait possible rapidement d'améliorer cette cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les voitures. Francis Sabourin.
Il y a aussi la possibilité d'agir au niveau du sens de circulation, de mêler avec un peu plus de sécurité ou un peu moins d'insécurité le trafic cycliste avec le trafic routier dans des rues de Thouars. Et ça, c'est quelque chose qui peut être à plus court terme et organisé plus aisément, enfin en tout cas avec un budget qui est bien moindre que celui qui sera nécessaire pour le gros projet des pistes cyclables dont il a été question à Thouars. En fait, il y a deux aspects quand on se déplace dans une ville telle. Il y a le vélo pour aller faire ses achats, le vélo pour aller au travail. Et en fait, c'est cet aspect-là qui, même nationalement, pêche de toute façon. Le vélo loisir s'est beaucoup développé, mais le vélo que l'on appelle communément le vélo taf, c'est-à-dire pour aller au travail, là par contre, il y a besoin de faire en sorte que ça se développe plus.
Pour favoriser la pratique du vélo, les employeurs peuvent prendre en charge les commodités de l'après-trajet au travail. Les automobilistes peuvent apaiser les relations avec ceux qui ont un guidon à la place du volant. L'exemple du Chaussidou qui se dessine rue de Malabry à Bressuire et qui donne la priorité au vélo sur les voitures apporte sa pierre à la réflexion, comme la possibilité récente offerte aux cyclistes d'emprunter certains sens interdits. Toutes les réflexions seront les bienvenues ce mercredi 4 mai à 20h30 à la station T à Thouars pour cette réunion citoyenne ouverte à tous. Elle sera animée par Laura Bro, chargée de mission à la communauté du Thouarsais pour le développement de la mobilité, et Adeline Jouffriot, responsable de la maison des mobilités du centre socioculturel. Reportage à Thouars signé Dominique Hérault. Le marché des Halles de Niort, candidat pour décrocher le titre du plus beau marché de France dans le concours organisé par TF1. Ce week-end, les commerçants ont mis le paquet pour encourager le public à voter en ligne. Niort figure parmi les 24 villes sélectionnées dans la phase finale de la compétition. On passe à la page sport et en football, les Chamois ont perdu samedi 3-1 face à Dijon. Des Niortais trop suffisants pour l'entraîneur Sébastien De Sabre.
On a joué un match de fin de saison. Voilà. Alors d'un côté, est-ce qu'il faut le reprocher aux joueurs? Je ne sais pas. Il y a une forme de décompression, c'est sûr, parce parce que la saison a été difficile. D'un autre côté, on essaye de les mobiliser pour qu'on aille chercher ces quelques points qui nous permettraient de mieux finir la saison. Est-ce qu'on en est capable? On verra sur le prochain match à Pau, qui sera un match où on aura intérêt d'être beaucoup plus rigoureux si on veut espérer quelque chose.
L'entraîneur des Chamois, Sébastien De Sabre, au micro Colline d'Antoine Judith. En National 3, mauvaise opération pour Bressuire dans sa course au maintien dans un match à rejouer face à un concurrent direct. Défaite à Lège-Cap-Ferré 2-0. Le FCB va donc devoir encore batailler pour son maintien. Écoutez l'entraîneur Xavier Benoît.
Il faut qu'on reste calme, il faut qu'on arrive à rester lucide sur ce dernier sprint. Si on doit aller chercher à la dernière minute ou à la dernière seconde du dernier match, il faudra le faire. Mais là, ce match est primordial dès le week-end prochain. On est à un point du premier relégable, mais voilà, avec un calendrier très difficile. On reçoit le troisième, on va chez le premier. On reçoit encore Lège-Cap-Ferré qui est dans une sacrée dynamique et on finit à Chauvigny. Donc voilà. Donc avant, il faudra vite se mobiliser pour aller chercher des points. La victoire contre Anglet pour pouvoir encore espérer quelque chose.
FCB Anglet, ce sera dès samedi prochain. En Régional 1, Thouars s'est incliné devant Fétia 2-0. En Régional 2, Parthenay-Viennet affrontait Migné-Auxances avec la victoire de Parthenay. Une victoire synonyme de montée en Régional 1 pour les joueurs de Philippe Souchard et une victoire avec la manière.
Oui, avec la manière. On était très, très concentrés, très concernés par l'enjeu aussi et on a marqué rapidement et puis on a joué face à une équipe voilà, qui jouait le maintien, qui a essayé de jouer quand même, qui n'a pas des joueurs qui a voulu jouer au ballon et bon, voilà, on a vu un Djibril Keïta dans les grands jours, on a vu une grande équipe de Parthenay, une grosse solidarité, une grosse envie d'aller au bout de cette aventure. C'était vraiment une belle soirée pour le club. On l'attendait depuis tellement longtemps, je pense, ce plus haut niveau régional. Je pense que voilà, on a fait une belle fête, on en a bien profité en tout cas jusqu'à 2h30 du matin et je pense que les joueurs ont continué à faire la fête très tard.
Philippe Souchard, l'entraîneur de Parthenay-Viennet. Une très belle saison pour Parthenay-Viennet, car outre cette montée en Régional 1, il y a également des montées en 2e division et 3e division. Également dans cette Régional 2, Nintré affrontait Effre avec la victoire de Nintré. On retient également la victoire de Montcoutant contre Le Talus, 3-1. Et la victoire de Saint-Sauveur contre Choret, 2-1. En Régional 3, Neuville affrontait Aubin-Orthez, la victoire d'Aubin-Orthez. Défaite de Saint-Serbouillet devant Nueil-l'Espoir, 2-0. La victoire de Thouars contre Terve, 4-0. Victoire de Cerizet contre Nord-17. 3-0. La défaite du Pays de Loing devant Châtellerault 2-0. La défaite de Saint-Varan-Pierget devant Buxerolles 3-2. La victoire de Vouillé en déplacement au Pays Mexantais 3-1. Et la victoire du Pays Mélois contre Saint-Benoît 5-0. Grâce à cette victoire, le Pays Mélois est quasiment maintenu. Notez également la victoire de Selverine en déplacement contre les Portugais de Châtellerault 3-1. Niort-Saint-Florent s'est incliné devant Barbezieux-Saint-Hilaire 6-0. La défaite de Niort devant Lalleux 4-3. En départemental 2, le duel au sommet a vu la victoire de la réserve du Talus 1-0 face à Chanteloup-Courlet-Chapelle. L'équipe de Willy Desnoux est en bonne position pour monter. Déception à contrario pour Chanteloup-Courlet-Chapelle qui ne peut plus monter. En tennis, le top 10-12 2022 s'est achevé samedi matin par les finales des 12 ans. Chez les filles, le duel espagnol a vu la victoire de Briana Navarro-Meneu sur sa compatriote Paola Pinera-Celorio en 2-7, 6-3, 7-5. Il aura fallu 3 sets pour départager les garçons avec la victoire finale du Portugais Francisco Sardinha sur le Français Joseph Heidenbaum 1-6, 6-4, 6-1. En rappel, les victoires chez les 11 ans des Français Lucia Kaluga chez les filles et Mario Vukovic chez les garçons. Mario Vukovic qui participait également au tournoi 12 ans et qui atteint la demi-finale. On passe au basket et en élite, les Choletais se sont imposés contre Pau Lacortez 87-76. Sur les baskets, reste en course pour les playoffs, mais il faudra s'imposer face à Boulogne-Levallois ce mardi. Rencontre à vivre sur Colline à 20h avec le duo Vincent Nori, François Larue. En National 2 masculine, notez la défaite des Niortais devant Garonne à SPTT 108-74. En handball et LBE, Celles-sur-Belle s'est incliné devant Besançon 28-23. Les Celloises doivent encore patienter pour obtenir le maintien. Il leur reste 3 matchs. Les filles s'en vont jouer à Mérignac vendredi. En National 1 féminine, les Montcoutantaises se sont imposées contre Bruguière 27-24. Notez la victoire de Pouzauges contre Granville en National 1 masculine 37-29. En National 2 féminine, les Celloises se sont imposées à Angers 28-13. National 3 féminine, notez la défaite de Praec à Osso 29-16. National 3 masculine, le Zessel s'est incliné à Bléré 28-26. On passe au volley. En National 2 féminine, la défaite des Niortaises devant Saint-Cloud 3-1. National 2 masculine, même résultat. Défaite également des Niortais devant Antony Saint-Denis 3-1. En National 3 masculine, notez la défaite d'Aignortais qui se déplaçait à Balma 3-0. On passe au rugby pour finir et le top 14, notez la défaite des Rochelais ce week-end devant Toulouse 23-16. En fédéral 1 et phase finale, match retour des 8e, Niort s'est incliné devant Saint-Jean-de-Luz 22-17. Le Niort Rugby Club est donc éliminé. Le président Gilbert Nazard est extrêmement déçu.
Oui, je suis touché, ouais, parce que si on avait été vraiment dominé, bon voilà, on n'a plus de réception, quoi. Et là, on est battu par une équipe que l'on pouvait battre, quoi. Voilà. Je pense avant tout qu'on a une mauvaise gestion du match, quoi. Des deux rencontres, on a fait à peu près la même rencontre là-bas qu'ici. Quand on occupe pas le camp adverse, on s'expose à des pénalités, à des contres, et c'est ce qui nous est arrivé.
Le président du Niort Rugby Club, Gilbert Nazard, après cette élimination ce week-end, on passe à la météo.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le soleil est bien décidé à ne pas céder sa place et c'est tant mieux. On avait d'abord annoncé pas mal de nuages hier et finalement il a fait beau. Pas mal de nuages cet après-midi, mais on devrait avoir encore de belles éclaircies. 19 degrés pour les maximales ce lundi sur les Deux-Sèvres. Alternance de nuages et de soleil confirmée pour tout le reste de la semaine, y compris le week-end prochain. Voilà pour la météo et toute l'info. Passez une belle journée, un bon appétit avec Colline.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur.